à tous, bienvenue sur Radio Common. Aujourd'hui, nous allons parler de culture, d'histoire et de phénomènes de société, en commençant par un sujet d'actualité, la Coupe du Monde au Qatar, présentée par Chloé, Daphné et moi-même. Ensuite, nous évoquerons les digestes éco-responsables après avoir écouté quelques interviews présentées par Alizée et Daphné. Le féminisme et Simone Veil seront présentés par Roman et Brittany. Ewan nous présentera William II, qui va suivre juste après l'addiction aux écrans, présentée par Alizée et moi-même. À présent, nous écoutons la Coupe du Monde au Qatar. La Coupe du Monde 2022 se passe au Qatar, en Asie du Sud, du 20 novembre au 18 décembre. Le Qatar a été sélectionné en 2010 aux États-Unis pour accueillir les 32 meilleures nations avec 14 voix contre 8. De 2010 à 2022, 8 stades ont été construits au Qatar. Il y a eu plusieurs travailleurs morts, en tout 6500, dont 2400 migrants décédés. De plus, les stades sont climatisés à ciel ouvert avec une température de 25 à 45 degrés.
Mais qu'est-ce que la Coupe du Monde ? La Coupe du Monde est la compétition la plus importante du football. Elle a lieu tous les 4 ans dans un pays différent. Elle fut fondée en 1930 à l'instigation des deux Français, Henri Delaunay et Jules Rimet, alors président de la FIFA, qui est la Fédération Internationale de Football Association.
Comment cela se déroule ? Elle se déroule en deux phases, les poules et les phases de finale. Les poules sont la sélection de 32 meilleures équipes du monde. Elles sont divisées en 8 groupes de 4 équipes. Le pays qui accueille les autres pays de la Coupe du Monde 2022 est le Qatar, qui est dans le groupe A et qui a aussi ouvert le bal. Les phases finales sont 8e de finale, quart de finale, demi-finale et la finale. Il n'y a que 16 équipes qui sortent des poules qui ensuite partent vers les 8e de finale. Où regarder ? Les matchs étaient à visionner sur TF1 et BeIN Sports en France.
La France a fini premier de sa poule avec 6 points en faisant 2 victoires et 1 défaite. La France est ensuite passée en 8e de finale face à la Pologne, surnommée les aigles car ils ont un aigle sur leur logo. Ils sont ensuite passés en quart de finale après avoir battu 3-1 la Pologne. Pour continuer, ils ont joué contre l'Angleterre, battu 2-1, et passé en demi-finale, puis passé en finale après avoir éliminé le Maroc. Pour finir, ils vont s'arrêter à la finale, étant éliminés par l'Argentine, 3-3, et au pénalty, 4-2.
La Coupe du Monde au Qatar était tout sauf écologique, pour cause de fortes climes. Donc, pour vous rappeler les digestes, veuillez écouter Alizée et Daphné.
Je vais vous présenter des gestes éco-responsables. Fabriquer ses produits ménagers et cosmétiques, par exemple la lessive ou le dentifrice. Rouler 10 km/h de moins que la limite pour limiter la pollution. Favoriser les trajets à pied au lieu de la voiture. Avoir son potager. Et réduire le plastique.
Trier ses déchets dans la poubelle plastique et verre. Réduire son électricité. Avoir un compost. Prendre une douche au lieu d'un bain. Fruits et légumes de saison et locaux.
Féminicide, on n'en parle plus tant que ça, vous ne trouvez pas ? Le féminisme, c'est important, pourquoi ? D'après une étude, nous remarquons que seulement 12% des Français se considèrent vraiment comme féministes. Mais alors, pourquoi continuer à se mobiliser ? Eh bien, encore aujourd'hui, de nombreux combats sont menés pour obtenir une réelle égalité. Peu de Français se rendent compte de l'importance du féminisme. C'est pourquoi nous avons effectué une interview en posant quelques questions sur ce combat pour l'égalité homme-femme. Merci aux élèves du Collège Sainte-Marie d'avoir répondu à mes questions.
En compagnie de Tom, qui est en 6e. En présence de Zoé, une élève de 5e, avec Rose et Victoria, qui sont en 3e. Je suis maintenant en présence de Melvin, qui est aussi en 5e. En présence maintenant de Hortense et Agathe, qui sont en 4e. Maintenant en compagnie d'Evan et d'Elias, qui sont en 4e. Plein d'exemples différents. D'ailleurs, le féminisme, ça touche plein de domaines différents parce que les femmes sont encore en infériorité pour plusieurs domaines. Par exemple, les hommes, ils ont un meilleur salaire ou des choses comme ça. Donc Zoé, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être féministe pour toi ?
Défendre les droits des femmes et ne pas avoir de différence entre hommes et femmes dans les domaines de travail ou voilà.
D'accord.
Être féministe, c'est défendre le droit des femmes et
le fait de vouloir l'égalité homme-femme. Je sais pas si tu vois. C'est-à-dire que les hommes, en général, ont une supériorité par rapport aux femmes. On est d'accord, c'est-à-dire les hommes ont un salaire élevé, par exemple, ils ont un meilleur salaire que les femmes, ou des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et les femmes, elles veulent le même salaire que les hommes. Elles veulent avoir les mêmes... je sais pas. Les mêmes droits, voilà. Merci. Donc, quelle définition tu nous donnerais?
C'est favoriser un genre.
Ouais. Ouais, c'est très important. Ensuite, lutter contre le sexisme. Déjà, qu'est-ce que c'est le sexisme?
Tu sais pas.
Le sexisme, c'est du coup les inégalités entre les hommes et les femmes. Mais un propos sexiste, par exemple, ça va être le fait de dire la femme c'est à la cuisine, ou bien que les garçons ils préfèrent le bleu, les filles elles préfèrent le rose, ou les garçons eux ils ont le droit d'avoir des travaux, je sais pas, par exemple agricoles, et puis les filles elles vont faire de la coiffure, de la couture, et puis elles restent à la maison à s'occuper des enfants, tu vois. Pourquoi, enfin, quelles raisons sont données pour manifester ou pour...
Pour réduire les inégalités entre hommes-femmes et pour que... par exemple, au niveau des salaires ou des choses comme ça, pour pas qu'il n'y ait pas d'inégalité, quoi.
Quel personnage tu connais peut-être? Je sais pas si t'en connais.
Je connais Simone Veil.
Oui, elle a fait quoi?
Elle a donné droit à l'avortement, non, entre autres.
On a déjà fait des choses importantes pour améliorer la vie quotidienne des femmes.
Pas trop, je crois que Emma Watson a fait.
Oui, c'est vrai.
Mais non, pas trop.
Elle fait partie de l'ONU Femmes, donc c'est vrai qu'elle a fait avancer des choses. Et elle est encore militante aujourd'hui et féministe. Il y a aussi Simone Veil, que je sais pas si t'en as déjà entendu parler.
Oui.
Peut-être un petit peu.
Après, il y a Simone de Beauvoir, il y a Rosa Parks, enfin, il y en a plein.
Oui, il y en a plusieurs, même forcément de cette époque-là, même aujourd'hui.
Oui, même plusieurs. Encore aujourd'hui, il y en a énormément.
Simone Veil.
Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait?
Elle a fait...
Un livre.
Un livre, oui, elle a écrit sa vie, c'est vrai, mais c'est pas vraiment la chose la plus
importante. Elle a un peu défendu les droits des femmes au niveau de la société.
Oui. Marie Curie, ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu peux en parler, si tu sais un peu ce qu'elle a fait.
Marie Curie, c'est une femme qui a eu 2 prix Nobel et c'est la seule personne au monde qui en a eu 2 dans 2 domaines différents, en physique et en chimie. Sinon, je sais pas si vous voyez Simone Veil.
Aussi. Si par exemple, je te parle de Simone Veil, je sais pas si tu vois du tout, ou alors Marie Curie peut-être.
Si.
Donc Marie Curie, comme tu le sais, c'est une femme du coup qui a fait améliorer la science dans 2 domaines différents, la physique et la chimie, que tu verras en 5e sûrement. Et Marie Curie, c'est surtout une personne très très importante parce que c'est la seule personne, pas la seule femme, mais la seule personne au monde à avoir gagné 2 prix Nobel différents, un en physique et un en chimie. Et personne ne l'a jamais fait, encore maintenant, personne ne l'a jamais fait. Donc si un jour par exemple, je sais pas, tu rentres dans la classe et il y a un professeur qui dit « J'aurais besoin de main forte, j'ai besoin de garçons pour porter des dictionnaires ». Comment est-ce que tu peux réagir face à ça pour éviter que ce soit sexiste?
Il y a aussi des filles qui sont fortes, même presque plus fortes que les garçons, qui sont plus fortes.
Plus tard dans ta vie d'adulte, tu vas dans un travail pour un entretien d'embauche, et que on te dit non, vous pouvez pas être plombier parce que c'est pour les hommes. Comment est-ce que tu pourrais réagir,
par exemple? J'essaierais de prouver que c'est totalement faux.
Mm-hmm.
Je négocierais tout simplement et
oui.
Je prouverais le contraire.
Des manifestations. Je veux dire, si je vous donne une situation, par exemple, je sais pas, vous avez envie de jouer au foot dans la cour et les gars ils veulent pas parce que vous êtes des filles. Vous réagissez comment?
Moi je m'énerve. Hein. Ouais, moi aussi je m'énerve et je leur dirais simplement que c'est pas parce que eux ce soit des garçons que forcément il y a que eux qui peuvent jouer.
Une fille peut être plus forte qu'un garçon.
Ouais, puis c'est même pas ça, c'est juste une question de respect.
De principe quoi.
C'est ça.
Comment est-ce que vous réagiriez si par exemple le prof de sport il disait que les filles, enfin couper la classe en deux, les filles elles devaient faire de la danse et les gars ils devaient faire du foot? Vous réagiriez comment?
Déjà mal d'une. Mmh. Et aussi au cross par exemple.
Oui.
Les filles doivent par exemple courir moins longtemps que les garçons.
Oui.
Ouais. Enfin, ça arrive.
Mais du coup, vous réagissez comment?
Bah, pour courir comme les garçons, ou les garçons, ils pourraient courir aussi moins vite.
Ouais, c'est vrai.
Si, par exemple, dans la cour, vous jouiez au foot et qu'il y avait un de tes amis qui dit il y a des filles qui viennent demander si elles peuvent jouer au foot et qu'il y a un gars qui dit les filles elles peuvent pas jouer au foot parce que c'est des filles. Tu réagirais comment?
Bah, elles ont le droit de jouer.
Ouais.
Bah, genre, je dirais c'est bon, elles ont le droit de jouer.
Ensuite, quelles actions sont menées dans la vie tous les jours pour faire améliorer le quotidien des femmes?
Je sais qu'il y a eu le mouvement féminin dans les années... je sais pas.
Oui, mais c'est déjà...
Mais ouais, voilà.
Et c'est quoi, en fait? Enfin,
C'était une sorte de révolution pour les femmes.
Ouais. Un peu des manifestations, en général.
Oui, voilà, des manifestations.
Après, on peut aussi en parler
sur les réseaux sociaux,
c'est vrai. Et à l'école aussi, c'est vraiment très très important parce que c'est bien que les élèves soient informés, quoi.
Ouais.
Je sais pas si vous le savez.
Bah, les mettre plus en valeur, non?
Ouais, c'est vrai. Par exemple, il y a des manifestations. Il y a aussi le fait d'en parler à l'école, par exemple. Le fait que les gens soient conscients déjà de ça, c'est très très important.
C'est l'inégalité entre les hommes et les femmes.
Ouais, c'est vrai. Et c'est aussi le fait de faire une différence entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que on se croit supérieur ou on fait des différences. Par exemple, on peut avoir des propos sexistes, je ne sais pas si vous connaissez des propos sexistes assez connus.
On va faire ça à la cuisine.
Ouais, voilà, par exemple. Après ça, on le dit très très souvent, enfin, on le dit comme exemple, je veux dire. On peut aussi dire que la femme, elle ne peut pas être plombier, par exemple. On peut aussi dire que l'homme, il ne peut pas être coiffeur, ou des choses comme ça. C'est des préjugés, en gros, merci.
Dernièrement, lors de la marche féministe du 19 novembre 2022, à l'occasion de la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le collectif féministe Nous Toutes invité à reprendre Conscience Sin Miedo, ou Chanson sans peur en français. Nous allons vous passer un extrait de cette chanson de Bibir Quintana, traduit en français.
À chaque minute de chaque semaine, ils nous volent des amis et les couvrent de haine, assassinent nos sœurs, les réduisent à néant, n'oubliez pas leur nom. Oh vraiment, monsieur le président.
Nous allons maintenant prolonger la thématique du féminisme en évoquant une figure majeure du féminisme, Simone Veil.
Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast, puisque nous allons parler d'une femme ayant marqué les esprits et qui a beaucoup changé les choses au sein de la société dans les années 50 et 70. Si je vous dis droit, guerre ou encore IVG et Europe, à qui pensez-vous? Il s'agit bien sûr de Simone Veil. Aujourd'hui, nous allons évoquer tout d'abord la vie de Simone Veil, puis surtout les avis des téléspectateurs et du film sorti en 2022 qui s'appelle Simone Veil, le voyage du siècle, qui a été réalisé par le merveilleux réalisateur Olivier Dahan. L'on développera les événements de sa vie à travers ce film, tout en vous donnant notre avis sur la chose et celui des spectateurs. Alors, serez-vous convaincu pour voir le film? Et serez-vous intéressé par cette vie des plus choquantes, passionnantes et intrigantes? Le destin ahurissant de Simone Veil commence le jour de sa naissance, le 13 juillet 1927, en Alpes-Maritimes. Elle grandit dans une famille juive, stable et saine, donc heureuse. De 4 enfants. Mais leur bonheur familial sera bouleversé lorsque le génocide des nazis envers les juifs aura lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Suite à ce massacre qu'elle a vécu et dont elle a survécu, Simone Veil va se construire une vie professionnelle en juridique et politique. Simone Veil est une personne respectable suite à la création de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, qui est aussi appelée IVG, le 17 janvier 1975. Ce film qui a été réalisé retrace parfaitement sa vie d'adolescente et adulte. Simone Veil, un nom qui est devenu mythique et qui évoque instantanément une loi, une histoire et encore une image, est raconté dans les moindres détails lors de ce film. L'on y retrouve chaque élément de sa vie, surtout son expérience dans les camps et la déportation, notamment par le convoi numéro 73 qu'elle a pris le 13 avril 1944. Ce film témoigne des conditions horribles et cruelles de vie, ne leur laissant aucun moyen de prendre soin d'eux, donc notamment l'interdiction et la restriction à la nourriture, la douche et les vêtements. Dans ce film, l'on poursuit le processus d'extermination dans le personnage de Simone Veil, adolescente et adulte, qui témoigne de son expérience traumatisante lui ayant laissé des séquelles à vie, puisque l'on pourra observer que dans le film, que pendant quelques années, elle n'arrivera pas à s'endormir sur un lit, ayant dormi pendant des années dans des baraques sur des lits de bois. Le choc psychologique a été très bien représenté dans ce film, voyant l'horreur des camps nazis où ils subiront la maltraitance, parfois même jusqu'à la mort. Le travail infernal, lui aussi, des fusillades ont été subis pour les personnes qui étaient jugées comme trop faibles pour suivre le rythme de la marche de la mort, que l'on pourra voir très bien reconstitué dans le film par de merveilleux acteurs. Ce film est décrit comme admirable et chargé en une émotion, puis a été adoré par les spectateurs ayant aimé la réalisation qui a été décrite comme impeccable, notamment pour le décor réaliste et somptueux, mais aussi le script du casting étant très marquant dû aux paroles et phrases cultes et captivantes qu'ils ont prononcées comme
« Votre travail, Madame Veil. »
La vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation.
Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous.
Le scénario a été très aimé puisqu'il laisse place aux émotions. Il fait ressortir notre côté compatissant et touché. Ils ont été choqués de comment une seule personne a pu changer le destin de tant d'autres. Ce film qui souligne à quel point rien n'est jamais acquis dans la quête de la justice et d'humanité. Maintenant, nous allons vous lire quelques commentaires de téléspectateurs ravis par le film interprété par Elsa Zilberstein, jouant le rôle principal de Simone Veil étant adolescente, et Rebecca Marder jouant aussi le rôle de Simone Veil. Elodie Boucher, Judith Chelma ou encore Olivier Gourmet, Mathieu Psinosi, Sylvie Testu et Philippe Toreton. Nous allons désormais laisser Daphné lire les commentaires laissés par les spectateurs.
Indispensable et très réussi. Film admirable. Film biopic beau, poignant et puissant, mais aussi très chargé en émotions. Un film à montrer aux jeunes générations qui abordent des thèmes toujours d'actualité comme le droit des femmes, le sexisme ou encore le racisme.
Donc comme je dis, comme le prouve Allociné avec une note de 4,2 sur 5, ce film a été adoré, puisqu'il traite les sujets essentiels pour lutter contre l'antisémitisme et prolonger le devoir de mémoire.
Comment définir la mémoire ? Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain.
Après avoir parlé de Simone Veil, nous allons écouter William II présenté par Ewen.
Guillaume II, né le 27 janvier 1859 à Berlin et mort le 4 juin 1941 à l'âge de 82 ans à Dorn aux Pays-Bas. Il est le troisième et dernier empereur allemand ainsi que le neuvième roi de Prusse, de 1888 à son abdication en 1918. Membre de la maison des Hohenzollern, il était le petit-fils de Guillaume Ier. Il est le petit-fils de Frédéric III, qui ne régna que 99 jours et à qui il succéda. Guillaume II se faisait rejeter par son père Guillaume Ier car il avait un handicap. Il avait une atrophie au bras gauche et une lésion à l'oreille interne gauche. À cause de son handicap, Guillaume II se lui empêcha de compléter son éducation qui passa à l'école militaire, comme le veut la tradition prussienne. Les historiens le décrivent comme un homme intelligent, cultivé et ouvert, mais parfois indécis et prêt à s'emballer pour revenir en arrière. Son défaut est utilisé contre lui par la diplomatie européenne. J'ai choisi l'empereur Guillaume II car il m'a paru comme un empereur qui était proche de son peuple. Il voulait le convoi de son peuple, être bien vu par la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe. Mais plus de la France après la guerre franco-prussienne en 1871 avec l'annexion de l'Alsace-Lorraine et il a encouragé la France pour ses colonies. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Allemagne est devenue son meilleur allié de 1965 à nos jours.
D'après l'Institut Ipsos, il y a une augmentation de 43% des enfants de 0 à 2 ans utilisent Internet, 57% entre 3 et 6 ans, 85% entre 7 et 10 ans. Les jeunes de 11 à 14 ans utilisent 3 réseaux sociaux en moyenne. 3 heures par jour devant un écran en moyenne pour les enfants de 3 à 17 ans. On préconise 20 minutes max d'écran.
Il y a divers effets sur la santé comme une exposition précoce ou prolongée devant un écran. Des conséquences sur le sommeil. À Paris, par exemple, les adolescents regardent environ 2 heures d'écran le soir. Ils dorment moins de 7 heures au lieu de dormir de 8 à 10 heures. Il y a un manque de concentration ou même des problèmes de vue. En 2021, 93% des adultes ont un accès à Internet en France.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que ces sujets de société qu'on a abordés vous auront plu. N'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux sociaux Commons Sainte-Marie et que nous proposer des sujets pour nos prochaines émissions. À très vite, restez connectés.